Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Un proverbe chinois dit « Pour la grenouille au fond du puits, le ciel n'est pas grand ». Ces mots constituent les premières lignes du livre du cardinal Etchegaray intitulé « Vers les chrétiens de Chine », un livre paru en 2003 aux éditions du Cerf. Le cardinal, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, se définissait lui-même comme une grenouille au fond d'un puits, incapable d'embrasser la réalité de la Chine et de son immensité. Il la découvrit, pourtant, au cours de 4 voyages historiques, le premier en 1980. Historique est le mot approprié car en effet, l'ancien archevêque de Marseille est le premier cardinal à être entré par la grande porte dans la Chine maoïste. Mais ce n'est que le 19 septembre 2000, lors de son troisième voyage, que le cardinal put rencontrer à Shanghai Mgr Aolis Jin Luxian. Sacré évêque illicitement par l'église officielle de Chine en 1984, ceci après 18 ans de prison et 9 années de relégation, il fut finalement reconnu par Rome au début de l'année 2003. Je vous propose de découvrir à travers ce personnage, à travers le parcours de Mgr Jin Luxian, les catholiques de Chine. Quelle place ont d'abord ces catholiques dans l'histoire de l'Asie? Quelle furent la réalité des persécutions de l'Église catholique sous le régime communiste? Pourquoi les relations entre la Chine et le Vatican ont-elles été si tendues? Et surtout, quelles sont ou quels seraient les éléments qui permettraient une réconciliation à terme entre les deux parties? Quel avenir donc pour l'Église catholique de Chine? Autant de questions auxquelles Dorian Malovic va nous répondre aujourd'hui. Dorian Malovic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au journal La Croix, chef du service Asie. Et pendant plusieurs années, vous avez été correspondant à Hong Kong. Vous êtes donc grand spécialiste de l'Asie en général et de la Chine en particulier. Et vous venez de publier aux éditions Perrin, dans la collection Asie dirigée par Jean-Luc Domenac, une biographie de cet évêque, le pape jaune, comme vous l'appelez, Mgr Jin Luxian, soldat de Dieu en Chine communiste. Le ton de votre livre, Dorian Malovic, est très proche de ce proverbe chinois que je citais au début de mon propos, appelant celui qui se penche finalement sur la complexité de la Chine à faire un acte d'humilité. Vous vous sentez, vous, comme une grenouille au fond d'un puits quand vous contemplez la Chine, Dorian Malovic?
Écoutez, ce sentiment-là, je le partage complètement avec le cardinal Etchegaray. Et en dépit de plus de 20 ans de voyage et de pérégrination dans les quatre coins de la Chine, c'est-à-dire je me suis rendu dans les campagnes les plus profondes de l'ouest, de l'est, du sud, du nord, parmi des peuples très différents. Dans le nord, je veux dire, on est dans une certaine culture pratiquement sibérienne et mongole. Quand on est au sud, on est plus près de l'Asie du sud-ouest, on n'est pas dans des climats identiques. Et c'est vrai que à chaque fois, plus j'y retourne, et j'y retourne plusieurs fois par an, les questions se multiplient, les interrogations sont constantes, les réponses très rares.
Alors votre livre met l'accent vraiment sur cette complexité, vous appelez à la nuance et oui, votre propos est très très nuancé. Oui. Alors votre livre s'attache à décrire la vie de Mgr Jin Luxian, mais il va bien au-delà puisque vous faites une analyse précise de la catholicité chinoise à travers l'histoire. Oui. Pourquoi, avant de voir cette catholicité, vous êtes-vous attaché à ce personnage? Il est emblématique pour vous?
Écoutez, il est emblématique. Je dirais le plus charismatique et le plus, le mieux placé pour raconter ce qui s'est passé ces 50 dernières années pour les catholiques de Chine. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer au milieu des années 80 lors d'un séjour à Paris qu'il a fait. Pour la première fois, il retournait à Paris, ou du moins en France. Il avait fait ses études en 47 à Paray-le-Monial, à Lyon et à la Grégorienne à Rome. Et c'était avant de partir m'installer en Asie comme correspondant. Et à travers ce personnage à l'époque, ce qu'il avait suscité comme réaction à Paris m'avait vraiment bouleversé. Je me suis dit, comment ce personnage peut-il créer autant d'animosité, de suspicion dans l'auditoire le soir de sa conférence à Paris, et en même temps exercer une telle fascination? Et c'est ce contraste qui, moi, m'avait beaucoup, beaucoup frappé. Et je me suis dit, voilà derrière cet homme, alors non seulement, je dirais, 400 ans d'histoire de catholicisme qu'il porte sur ses épaules, puisqu'il est jésuite, donc il est quand même l'héritier, d'un Matteo Ricci, et nous étions au XXe siècle. Et c'est vrai qu'à partir de là, m'installant à Hong Kong, je n'ai cessé de m'y intéresser, mais sur le terrain, partout où j'allais en Chine, j'allais dégoter, chercher la petite église, la grande cathédrale, qui était encore dans les années 80 pas si évident à trouver et pour beaucoup encore fermée. Et l'évolution de ces 20 dernières années est assez extraordinaire. Et d'avoir pu être le témoin de cette évolution me satisfait de jour en jour. Et aujourd'hui encore, ça progresse et on aura encore beaucoup de surprises.
Alors, vous dites dans... Je tiens à évoquer la jeunesse de votre livre. Vous dites dans les remerciements que c'est à l'occasion d'un reportage en Australie, en l'an 2000, que vous avez pu rencontrer Simon Leys, qui, sans le savoir, a été l'élément déclencheur de ce livre. Qui est Simon Leys et quel fut son rôle, donc?
Ah, écoutez, Simon Leys, pour moi et pour beaucoup, est le modèle dans la sinologie international. Il est né en Belgique et il a été celui qui, durant la révolution culturelle en Chine, entre 1966 et 1976, a été le premier, à publier un ouvrage dénonçant les excès, tous les excès, les dérapages de cette révolution culturelle que nos intellectuels en France ne cessaient d'encenser et voyaient en Mao la troisième voie et savaient s'aveugler d'un certain nombre de choses qu'on leur révélait et surtout celles qu'on leur cachait. Et tout en étant extérieur au continent chinois, il a été exilé à Hong Kong. Et depuis Hong Kong, il a pu observer un certain nombre de choses, décrypter certains médias continentaux, écouter, voir. C'est ce qu'il dit dans son livre « Les habits rouges » du président Mao. Et se dire que tout ce qu'on pouvait nous raconter sur la gloire de la révolution culturelle n'était que de belles paroles et que derrière tout ce processus et tout ce phénomène se déroulait une des grandes catastrophes humaines de l'histoire chinoise contemporaine.
Et donc c'est lui qui vous a incité à écrire cet ouvrage.
Finalement, alors Simon Leys, j'ai été quand même nourri de ses lectures et allant en Australie, je savais qu'il était complètement à la périphérie du monde, à Canberra, et apprenant cela, je l'ai contacté, et très gentiment, il m'a dit, si vous passez à Canberra, venez me voir. Et évidemment, j'ai fait le détour, quand même, quitte à être en Australie, je suis allé quand même à Canberra, et m'a reçu très gentiment pendant tout un après-midi chez lui, et c'est lors d'une promenade dans la prairie, derrière sa maison, parmi les kangourous, qui vivait en totale liberté derrière chez lui, où je lui ai parlé de ce projet que je nourrissais depuis des années, puisque je récoltais, j'amassais, je rédigeais des tas de carnets, des notes à chaque reportage, à chaque déplacement en Chine. J'accumulais, je suivais en fait l'évolution de cet évêque de Shanghai. Et je sentais que c'était important, mais je me demandais toujours si le moment était bien venu de publier un livre. Est-ce que c'était trop tôt ou alors vraiment trop tard, pas encore assez tôt. C'est un peu compliqué ce que je raconte, mais en fait, je me suis dit, je vais prendre conseil auprès du maître, Simon Leys, et là, lorsqu'il me dit, rien n'a été fait dans ce domaine de façon équilibrée, je dirais sans extrémisme, c'est-à-dire, je n'étais ni un missionnaire, ni je ne faisais pas partie d'une congrégation religieuse, je n'étais pas envoyé par le Vatican, ni par l'Église de France, ni par qui que ce soit d'autre. Et donc, j'étais relativement neutre. C'est bon, un être humain peut être neutre. Mais je pouvais finalement apporter ce regard d'un journaliste, le plus neutre possible, pour observer l'évolution de ces 50 dernières années. Et c'est vrai que lorsqu'il m'a dit « il est temps qu'un livre pareil soit publié », effectivement, lorsque je suis rentré d'Australie, je me suis dit « si j'ai l'aval de Simon Leys, je me suis dit « maintenant, c'est le moment de le faire ». Et effectivement, tous les événements depuis l'an 2000 en Chine, au Vatican, à Hong Kong et à Taïwan, par exemple, lui ont donné raison.
Les choses ont beaucoup évolué, mais et d'un autre côté, on a toujours du mal à mettre un point final à un livre sur la Chine du fait de sa complexité. Oui. Alors venons-en, si vous le voulez bien, Dorian Malovic, à l'histoire des catholiques en Chine. À quand remonte la première présence des catholiques chinois?
Alors,
des catholiques occidentaux qui sont donc arrivés en Chine.
Qui sont arrivés en Chine. Alors, effectivement, les vestiges les plus anciens qu'on peut trouver gravés dans la pierre sont à Xi'an, c'est l'ancienne capitale chinoise au 8e siècle. Et ce sont effectivement les moines nestoriens qui, venant de Syrie, ont schismatiques d'ailleurs, qui ont fui vers l'Est et qui se sont installés en Chine, bon, 7e siècle, 8e siècle. Et se sont vus confrontés effectivement à un empire qui à l'époque était non seulement très brillant mais très prospère. Guangan, Xi'an, c'était pratiquement une des plus grandes villes du monde à l'époque. Murailles, grandes avenues, une population de près d'un million d'habitants. Pour le 8e siècle, c'était déjà une autre dimension. Et finalement, ce sont les premiers vestiges. Et on peut se dire que ce que les Nestoriens ont rencontré à l'époque sur le terrain, c'est tout le temps retrouvé à chaque étape, à chaque progression de chrétiens, catholiques, moines, prêtres qui sont arrivés en Chine. Je dirais, la même rencontre entre l'Orient et l'Occident s'est vraiment matérialisée. Les mêmes limites, les mêmes ignorances, les mêmes craintes et bien souvent les mêmes échecs. Parce que on n'installe pas une religion étrangère en Chine, comme on a pu l'installer, par exemple, en Afrique ou en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, avec une conquête, les soldats, les commerçants, au 8e siècle, le 9e, 10e, 11e, le monde était quand même très inaccessible, c'était des caravanes, il fallait prendre du temps, et le peuple chinois, l'organisation chinoise, l'organisation impériale, faisait que, je dirais qu'il y avait pas forcément une réticence d'emblée. Les voyageurs pouvaient effectivement traverser ces territoires. Mais la structure homogène de ce peuple en faisait une difficulté supplémentaire pour qui voulait apporter quelque chose de nouveau. D'abord de totalement nouveau, et en ce qui concerne une croyance, une spiritualité, effectivement, il fallait qu'elle soit adoptée, avant d'être adoptée, il fallait qu'elle soit comprise, exprimée, explicitée. Et je pense que ça a été effectivement très compliqué à faire comprendre, d'autant que la Chine était déjà plus de 2 à 3 000 ans d'histoire et qu'elle n'attendait pas les Occidentaux pour découvrir un certain nombre de choses. Elle avait déjà son histoire derrière elle, que ce soit effectivement le taoïsme, les religions traditionnelles paysannes, le chamanisme évidemment qui était à l'origine de tout l'Empire. Alors effectivement, on pourrait se dire que le bouddhisme est également une religion étrangère à la Chine, puisqu'il est venu d'Inde, mais cela a mis quand même un certain nombre de siècles avant de s'y installer. Mais petit à petit, il y a eu une grande phase d'appropriation du bouddhisme en Chine, au 9e, 10e siècle, une grande tradition de traduction de tous les écrits qui sont venus d'Inde, et petit à petit, le bouddhisme s'est installé. Mais le christianisme, finalement, rencontre effectivement des difficultés parce que les Chinois étaient déjà bien installés. Ils n'étaient pas divisés, je dirais, le peuple entier était très très homogène. C'était le peuple Han et le peuple Han avait déjà tous ses repères, je veux dire, ses repères politiques.
Il y avait vraiment une identité culturelle très forte.
Très forte. Très forte. Je pense qu'en regardant l'histoire, pour remonter aux Mayas, aux Aztèques, aux conquistadors, pour parler d'un continent que je connais bien aussi, et quand on veut comparer, je dirais, ces colonisations ou ces exportations de culture, on voit que les Occidentaux en Asie se sont trouvés de façon générale confrontés à des cultures très enracinées, très fortes et qui n'étaient pas affaiblies.
Alors comment évangéliser dans un tel contexte? C'est ce que je vous propose de voir, Dorian Malovic, après une première pause.
Qui porte l'habit vert?
Les académiciens des 5 académies.
Qui est invité en habit vert?
Les académiciens des 5 académies.
Qui s'exprime en habit vert?
Les académiciens des 5 académies.
En habit vert?
Le portrait?
Le parcours?
La rencontre?
Des académiciens des 5 académies.
En direct ou en médiathèque?
Sur Canal Académie.
Un jour dans l'histoire reçoit Dorian Malovic, journaliste à la Croix, spécialiste de la Chine et auteur d'un livre, Le Pape Jaune, qui est une biographie de Monseigneur Jin Luxian, soldat de Dieu en Chine communiste, paru aux éditions Perrin. Alors nous avons évoqué l'installation des Nestoriens qui apportent le christianisme en Chine, la difficulté pour l'Occident d'apporter sa propre vision, et vous montrez cette opposition entre l'Occident et l'Orient, notamment dans cette lettre d'Innocent IV, pape donc du XIIIe siècle, au Grand Khan, et vous écrivez, je vous cite, « ce coup de semonce », parce qu'il s'agissait d'un coup de semonce papal, « ce coup de semonce papal démontre vraiment l'inconscience totale du rang de la personne à laquelle est adressée cette longue missive. Il y a une incompréhension totale. » Alors comment, malgré tout, le catholicisme arrive-t-il à se développer en Chine ?
Avant de se développer, il a fallu qu'il s'y installe. Et ça a été quand même relativement difficile. On voit bien que dans la citation du pape de l'époque, l'Européen se sent quand même toujours tout puissant et se sent le centre du monde et le plus grand, le plus fort. Il est assez intéressant de remarquer que en Chine, il y a exactement le même phénomène. Il s'appelle pas l'Empire du Milieu pour rien. Et se sentir le meilleur, le plus grand, le seul, le modèle auquel tout le monde doit se soustraire, c'est exactement les mêmes éléments. Alors ces deux éléments, Orient-Occident, Occident et Chine, qui se rencontrent, forcément que ça ne peut faire que des étincelles. Parce que subitement, deux puissances qui s'imaginent suprêmes se rencontrent à plusieurs moments de l'histoire, et elles se rencontrent à travers le catholicisme, et à travers une puissance spirituelle, mais aussi militaire et commerçante, du pape. Et quand le pape fait ses injonctions en disant « mais vous allez vous soumettre et écouter ce que nous avons à vous dire et observer les rites et faire ceci et faire cela », effectivement, il ne se rend pas vraiment compte de la personne à qui il s'adresse. C'est quand même un empereur, c'est quand même le chef d'un peuple qui est autrement plus nombreux que même notre population européenne à l'époque, et personne ne comprend qu'un étranger puisse vouloir dicter sa loi. Alors, face à cela, sur le terrain, XIIIe siècle, mais alors on repart au XIVe, XVe, il y a des périodes d'installation. Alors, il y a des franciscains, des dominicains et des lazaristes. Ce sont ceux-là qui arrivent, je dirais, dans les congrégations les plus contemporaines pour nous qu'on puisse connaître, et qui s'installent, alors qui arrivent effectivement par l'Asie du Nord, et certains qui arrivent par Macao. C'est le début, des colonisations portugaises par le sud de la Chine, et on envoie des éclaireurs. Alors ça s'installe d'abord dans les campagnes, et on voit que même dans les campagnes, on se retrouve entre, effectivement, plusieurs croyances, entre les bouddhistes, qui sont très souvent en rivalité avec les confucianistes. Il y a des querelles d'école au sein de ces croyances spirituelles, et en même temps, tout cela change. Les confucéens sont dominants au XVe siècle. Au milieu du XVIe, on voit aussi que les bouddhistes, les moines deviennent très puissants. Face à cette puissance, l'empereur veut essayer de rééquilibrer. Tout ça est toujours en mouvement. Et dans ces mouvements-là, arrivent des prêtres occidentaux, évidemment, de différentes congrégations, je l'ai dit, franciscains, dominicains, lazaristes. Ils perçoivent assez vite toutes les tendances qui se mêlent, ou du moins qui se chamaillent et se querellent, et se demandent par où il faut commencer. Alors certains vont aller voir les mandarins bouddhistes pour leur dire, écoutez, voilà ce que je caricature, mais voilà ce que nous proposons, cette religion du Fils du Ciel. Plutôt pas mal comme image. Ça correspond à l'empereur, l'empereur chinois. Les autres vont aller voir les confucéens, dire « Voyez, ce qu'on vous propose n'est pas si éloigné par la philosophie confucéenne, avec le respect des ancêtres, avec et effectivement une croyance et un être suprême. » Et chacun ne va tout de même pas révéler toute la profondeur du message évangélique. C'est-à-dire, on voit bien, et on en arrive maintenant un peu aux jésuites, évidemment, parce que les jésuites, eux, arrivent par le sud, Macao.
Ils ont une démarche particulière parce qu'eux, ils veulent toucher les élites.
Alors, c'est la tradition jésuite. On va toucher les élites. Une fois qu'on touche les élites, on touche tout le peuple. Alors, bon, Matteo Ricci arrive au XVIe siècle, dans le sud de la Chine. Il arrive enfin à Pékin, après avoir traversé le pays et vu des missions qui s'installaient, des petites églises, des petites communautés qui commencent à s'installer. Et si elles se sont installées, c'était des communautés qui étaient en opposition soit avec les bouddhistes locaux, les mandarins confucéens. Donc il y avait une troisième voie pour certaines personnes, et donc on se rattachait à cela. Maintenant, les jésuites visent la tête et veulent convertir l'empereur. Mais l'accessibilité à l'empereur n'est pas chose facile. Et ils y vont. Enfin, Matteo Ricci a eu, je dirais aussi, là, ce génie d'adapter, alors, dans la langue, dans l'explication et dans l'enseignement qu'il fait à certains mandarins, à certains hauts responsables de grandes familles chinoises, ce que la religion catholique et ce que l'évangile prône, défend et veut apporter. Et évidemment, pour lui, le message devait être compris et expliquer Jésus-Christ, fils de Dieu venu sur terre pour sauver l'humanité tout entière. Alors ça, c'est assez compréhensible pour la culture chinoise. On comprend. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix devient un petit peu plus compliqué à comprendre. Si, finalement, pourquoi doit-il mourir pour sauver les autres? Donc ça, c'est un peu plus compliqué, mais ils arrivent. Il a quelques élèves, Matteo Ricci, il leur explique, alors certains adhèrent, comprennent.
Vous décrivez en fait toute la prudence de cet enseignement, parce que les concepts sont vraiment différents.
Mais vraiment, la grande intelligence de Matteo Ricci, c'était de complètement s'inclure dans
s'adapter,
le peuple chinois, s'adapter, parler chinois, évidemment. Ils apprenaient le mandarin, le lisaient, l'écrivaient après des années d'études à Macao et puis sur le terrain. Et ils voyaient bien, ils ont assez vite vu où se trouvaient les enjeux, qui étaient les pouvoirs et qu'est-ce qu'il fallait faire. Alors, une dernière chose, je parlais de Jésus-Christ et de la croix, la grande difficulté. Comment expliquer la résurrection? Et ça a été compliqué. Et bien souvent, de façon assez subtile, très sciemment malhonnête de la part des jésuites, ils disaient, bon, même Matteo Ricci disait, bon, la résurrection, je le garde pour un peu plus tard, je ne vais pas l'expliquer maintenant, ça va trop vite, ça va pas. Je résume, oui, mais oui. La résurrection, c'est un peu compliqué à saisir, et il faudra attendre un petit peu avant d'expliquer ce phénomène qui pouvait être parfaitement compris et perçu par les Chinois, parce que les religions traditionnelles chinoises sont faites beaucoup d'ésotérisme, de mysticisme, etc. Mais la résurrection, c'est pas ça. Évidemment, il s'est dit, si je leur raconte ça, ça va pas être facilement compris. Donc, il y est allé lentement.
Alors, bon, malheureusement, nous avons peu de temps et nous ne pouvons évoquer dans le détail cette histoire du catholicisme en Chine. En conclusion, en tous les cas, jusqu'au 19e siècle, vous dites que, en fait, vous jugez que l'histoire du christianisme en Chine fut faite plus de douleur que de joie. Il n'y a pas vraiment de grand élan. Et vous citiez tout à l'heure l'Amérique latine. Oui. Les résultats ne sont pas là.
Non, pas du tout. C'est-à-dire, évidemment, pour chaque congrégation, il y a des succès. Je veux dire, pour un missionnaire qui passe sa vie entière au fin fond de la Chine au XVIIe siècle,
c'est un acte héroïque.
C'est un acte de don de soi-même total. Et de fonder une petite communauté dans un village, d'en fonder une autre un peu plus loin, etc. Ce sont des succès, ce sont les enracinements, ce sont les germes, c'est le grain de sénué. Et finalement, tout cela vaut même de se sacrifier, d'être martyrisé comme ça s'est passé pour de nombreux missionnaires à cette époque-là, où les rivalités jouaient et beaucoup ont été emportés, kidnappés, tués, assassinés, parce que ça venait en rivalité à d'autres puissances et d'autres pouvoirs. Donc c'est vrai que c'était difficile, c'était très difficile et c'est complètement atypique. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de conversion en masse, volontaire, de façon désirée, parce que tout simplement il y a déjà tout ce qu'il faut sur place et il n'y a pas jusqu'au 19e siècle non plus, il n'y a pas de colonisation générale du pays. Le pays est puissant et on n'arrive pas à pénétrer dans ce pays où évidemment vous avez la langue, l'écriture, la géographie, l'ignorance de la géographie physique. On n'y rentre pas comme on a pu rentrer ailleurs très très fortement, où les peuples en Amérique du Sud étaient déjà divisés, se battaient entre eux. il y avait des failles. En Chine, il n'y avait pas ces failles-là.
Alors, au XIXe siècle, le colonialisme et notamment le trafic de l'opium, je renvoie nos auditeurs à l'émission disponible dans la médiathèque de Canal Académie avec Bernard Brisé sur le sac du Palais d'été. Mm-hmm. Tout cela n'arrange rien, en tous les cas n'arrange pas les rapports entre les Occidentaux et la Chine. Alors, venons-en au XXe siècle et au parcours de Monseigneur Jin Luxian. D'où vient ce personnage et comment devient-on catholique chinois dans la première moitié du XXe siècle?
Alors, Monseigneur Jin Luxian, il est né à Shanghai au début du XXe siècle et il est issu, comme la grande majorité des catholiques de l'époque, de 5 générations de catholiques.
Donc, il y a vraiment une tradition qui s'est perpétuée dans les familles.
Oui. 5 générations, vous voyez, ça ne remonte pas si loin que ça. En même temps.
C'est un peu plus de 2 siècles.
Voilà, voilà. Et donc, c'est vraiment ces familles, 5 générations, c'est vraiment la plus longue racine catholique qu'on puisse trouver. Et pour ces catholiques, il est évident que tous les enfants seront baptisés et que parmi ces enfants, de toute évidence, il y en aura au moins un, sinon 2 ou 3, qui entreront dans les ordres, qui sera une religieuse pour une fille ou prêtre pour un garçon. Et ça, une famille catholique, c'est évident. On ne se marie qu'entre catholiques. À cette époque-là, un catholique ne peut pas envisager de se marier avec un païen. C'était quand même cette dénomination-là. Donc lui, il est issu. Bon, en plus, à Shanghai, je veux dire, depuis le milieu du 19e siècle, Shanghai, c'est la plateforme économique du pays où sont installés les Occidentaux. C'est les concessions étrangères françaises, américaines, britanniques et japonaises qui sont à Shanghai. Et aussi une plateforme de toutes les congrégations religieuses qui sont installées en Chine. Depuis les traités inégaux, tout le monde s'est installé. Et il y a des passe-droits pour tous les missionnaires et les prêtres pour circuler en Chine comme ils le veulent. Donc là, déjà, ce sont des avantages acquis pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire, les Chinois auront suffisamment de temps après pour le répéter. Et lui, finalement, il est assez famille socialement classe moyenne. Bon, il est... Le problème, c'est qu'il est orphelin de mère à l'âge de 8 ans, orphelin de père à l'âge de 10 ans. Son frère et sa sœur meurent peu de temps après. Ouais. Il se retrouve vraiment tout seul. Mais il est déjà dans le collège Saint-Ignace à Shanghai et il est déjà dans l'atmosphère jésuite.
Mais c'est un garçon qui est très intelligent.
Oui.
Il a une influence française très forte.
Oui.
Et il part d'ailleurs en voyage en Europe.
Bien sûr. Il est tout de suite, évidemment, remarqué par ses professeurs jésuites qui sont français. Dans la grande majorité. Sa première langue, à lui, est le shanghaïen, puis après vient le français, après vient le mandarin seulement. Mais il est très brillant. Il a une mémoire phénoménale. Alors, évidemment, ils sont tous obligés d'apprendre le latin. Si on veut devenir prêtre en Chine à ce moment-là, on ne peut échapper au latin. Bon, tout le monde à l'époque, dans le monde entier. Mais pour un chinois, c'est quand même un peu plus difficile quand même. Hein. Si on demandait à tous les séminaristes d'apprendre le chinois pour devenir prêtre, je pense qu'on pourrait voir, on pourrait faire une comparaison. Et il est tellement brillant que ses supérieurs décident de l'envoyer à la fois à Lyon, à Paray-le-Monial et à la Grégorienne de Rome, où il va compléter sa théologie. Et là, il rencontre beaucoup de monde à cette époque-là. Faut pas oublier ça, il rencontre beaucoup de monde. Il est déjà très sensible aux professeurs importants, aux évêques, aux archevêques, aux cardinaux, devant lesquels il brille. Parce que quand même, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de Chinois qui viennent faire leurs études en Europe.
Donc on le remarque.
On le remarque, on ne l'oublie pas. Et d'ailleurs, quand Mao arrive au pouvoir en 49, là se trouve le premier dilemme pour lui. Doit-il rentrer ou pas? Ses supérieurs ne sont pas tout à fait d'accord et lui dit « je rentre quand même ». Et en 51, il rentre en Chine et il retourne à Shanghai et il voit son évêque à qui il dit « Il faut résister, même si les missionnaires occidentaux ont été renvoyés. Nous devons prendre en main notre Église.
» Avant cela, il y a un événement qui est de taille, qui est la guerre, qui lui fait... Enfin, c'est un patriote chinois. Et c'est aussi pour cette raison qu'il rentre en Chine, c'est parce qu'il aime la Chine.
Absolument. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire, dans ces concessions françaises, britanniques, à Shanghai, et chez les jésuites, on vit un peu dans un vase clos, dans un monde clos. Et évidemment... il a été pris en main par des Occidentaux. Et en même temps, la guerre avec le Japon, enfin, la guerre civile, déjà, en Chine. Bon, le secoue, même si ça, il est entre quatre murs, il ne le voit pas vraiment. En revanche, La guerre sino-japonaise, il la voit, puisque, je veux dire, à Shanghai, il en a vu les conséquences. Et là, c'est la première prise de conscience de son nationalisme face à une invasion japonaise. Et cette prise de conscience-là s'est développée, s'est affinée, en réalisant un petit peu plus tard aussi que, d'une certaine manière, les Occidentaux avaient aussi colonisé la Chine, d'une autre façon, violente au départ et après, de façon plus subtile. Mais donc, quelque part, entre ces deux visions, lui se disait « mais moi, je suis chinois, entre les deux ». Maintenant, les Occidentaux m'ont apporté le message de l'Évangile, et ça, je leur serais redevable à vie. Je leur serais reconnaissant. Mais son nationalisme, vraiment, vient de ces années-là, et les appels, je veux dire, de Mao, en 49-50, à la diaspora chinoise, leur disant « revenez au pays, reconstruisons un monde, une Chine nouvelle, forte ». Beaucoup de Chinois, ils sont très sensibles et retournent, y croyant, justement, repensant aux Occidentaux d'avant, aux Japonais actuels, se disant « nous allons contribuer ». Évidemment, tout le monde s'est senti, enfin, ça a été trompé par ces messages.
Alors, que va-t-il devenir sous le régime communiste, Dorian Malovic ? C'est ce que nous allons voir dans un instant.
Canal Académie.
Je reçois Dorian Malovic, auteur du livre « Le pape jaune », Monseigneur Jin Luxian, soldat de Dieu en Chine communiste, un livre paru aux éditions Perrin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste à La Croix. Alors, nous voyons le parcours de cet homme, qui, vous le disiez tout à l'heure, est vraiment emblématique du catholicisme chinois. Nous en étions au moment où il arrive, d'Occident. Nous sommes le 17 janvier 1951. Il débarque en Chine. Ses intentions, c'est de donner une identité au catholicisme chinois, mais les autorités chinoises communistes, elles, voient les choses très différemment.
Pour les autorités communistes chinoises, l'objectif est d'éradiquer les religions, et encore plus une religion étrangère, puisque de façon systématique, le gouvernement de Pékin, les communistes, considèrent que le catholicisme vient de l'étranger et le résultat de l'impérialisme occidental qui a pénétré la Chine de façon violente avec la canonnière et que c'est inacceptable. Donc nous devons éradiquer les religions, de toute façon. L'idéologie de l'époque le voulait ainsi. Et effectivement, il y a des catholiques. Mao renvoie les missionnaires étrangers occidentaux, tous. Beaucoup d'évêques, il y en avait quelques-uns, et prêtres chinois et religieuses chinoises, beaucoup s'en vont aussi, de peur de la répression. Et Jin Luxian lui rentre, et il l'explique très clairement en se disant « Bon, tout le monde s'en va, même des Chinois s'en vont, je ne peux pas laisser les catholiques qui eux vont rester sans un pasteur. » Et il rentre, et je crois aussi que derrière cette explication qu'il donne, il y a quand même cette idée quand même de prendre en main lui-même à Shanghai un certain nombre de choses à la chinoise et de se débarrasser, je dirais, mentalement, spirituellement, de l'influence occidentale. Voyant là aussi une occasion de siniser l'Église catholique chinoise. Et lui, il se sent quand même très clairement en capacité de le faire.
Alors, vous le dites, il est de Shanghai, et vous l'écrivez dans votre livre, la métropole de Shanghai va payer très cher à l'avenir son ancienne et profonde fusion avec l'Occident. Alors, vous décrivez la scène, c'est la rafle du 8 septembre 1955. Que se passe-t-il ce jour-là?
Écoutez, ça fait 6 ans que les communistes sont au pouvoir. Ils se sont occupés des paysans, ils se sont occupés des commerçants, ils se sont occupés des Chinois qui étaient revenus pour investir leur argent. Maintenant, il fallait s'occuper des catholiques. Bon, c'était pas prioritaire, mais ça devenait quand même un peu prioritaire maintenant. Et il fallait, après avoir observé la résistance des catholiques pendant 5-6 ans, maintenant il fallait mettre un terme à cette résistance. Et du jour au lendemain, en 55, dans toute la Chine, spécifiquement aussi à Shanghai, là on rafle plusieurs centaines et plus d'un millier de fidèles catholiques, prêtres, séminaristes, évêques, et tout ce petit monde-là va en prison, et beaucoup vont passer à partir de là 20 ans de leur vie en prison, et Mgr Qin, lui, est condamné, lui aussi, à 18 ans de prison, pour espionnage, pour volonté de déstabiliser l'État, connivence avec l'impérialiste étranger de Rome, puisqu'il venait de Rome. On lui disait, mais les communistes lui disaient, mais pourquoi tu es revenu? Si tu es revenu, c'est que tu es un agent du Vatican et que tu viens nous espionner. Et il se retrouve d'emblée déjà entre deux influences, et il va le payer pendant plus de 30 ans encore après. C'est-à-dire que son ambiguïté, sa complexité, c'est à la fois le résultat de son histoire à lui, mais il va se retrouver avec les communistes qui l'accusent, et aussi, par la suite, les autres Chinois de la diaspora à l'étranger, qui vont le voir émerger après plus de 20 ans de prison. Il le voit sortir de prison. D'autres sont sortis, mais il y en a encore beaucoup qui restent en prison. De l'extérieur, on se dit, mais pourquoi lui a été libéré? Et là commence encore une grande page de son histoire qui sont les accusations d'avoir trahi ses frères en prison.
Alors, avant de venir à ces accusations, parce que vous êtes le seul personnage à qui il a parlé de ses années de prison.
Oui.
Comment se passent ces années de prison?
Ça. Alors,
évidemment, il ne peut pas dire sa messe.
Pour beaucoup, et j'ai lu pas mal de témoignages, et j'ai rencontré beaucoup de prêtres très âgés aussi en Chine depuis 20 ans. C'est-à-dire, Mgr Qin, c'est évidemment lui que je peux connaître le mieux, mais c'est vrai qu'à travers la connaissance que j'ai pu faire d'autres qui ont traversé les mêmes périples et les mêmes péripéties et les mêmes affres, je vois que en prison, ils étaient très isolés. Les uns des autres. On les mettait évidemment pas ensemble. Et lui était un personnage, je dirais, supérieur. Il venait d'Europe. Il était en isolement. Très, très, très isolé vis-à-vis des autres. Je vois d'autres évêques, l'évêque de Canton qui a été libéré aussi bien plus tard. Ils n'avaient rien pendant près de 20 ans dans leur prison, dans leur cellule. Et c'est vrai. On l'a interrogé au début, on lui a fait passer des
preuves
psychologiques
des
terribles,
oui.
C'est ce qu'il raconte. On passe la nuit, on voit le système chinois d'interrogatoire pour les coincer et les contraindre à se confesser et à confesser des choses qu'ils n'ont pas commises, évidemment. Mais lui, une fois qu'ils sont en prison condamnés, ils vont passer d'une prison à une autre, on les transfère, il y a la révolution culturelle. Tous se retrouvent en prison. Bouddhistes, taoïstes, chrétiens, protestants ou catholiques, tous ceux qui avaient fait allégeance au régime comme ceux qui avaient refusé de faire allégeance. Donc là, les bourreaux, les victimes, tout le monde se retrouve. Et à la sortie, il y a déjà des blessures du passé qu'il va falloir résorber. Mais pendant ces 20 ans, on a du mal à imaginer, mais il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, quand vous connaissez la Chine dans les années 80, il n'y avait déjà pas grand-chose. Vous imaginez que 20 ans auparavant, il n'y avait rien. Il y avait une soupe de riz avec 3 légumes 2 fois par jour. Il a probablement gardé ses vêtements pendant près de 20 ans dans les mêmes prisons. Et c'était un dénuement, mais évidemment, pas de bible, pas de chapelet, pratiquement pas de papier. Enfin, peut-être vers la fin, on pouvait
Il écrivait par terre, vous disiez.
Mais oui, mais en même temps, tout ça pouvait s'envoler. Mmh. Et je pense qu'il a exercé, il me racontait, il exerçait sa mémoire parce qu'il avait appris plusieurs langues. Mais c'est ce qu'ont partagé énormément de catholiques à la sortie, je veux dire, pendant 20 ans. Et d'autres sont restés plus longtemps que lui encore. Mmh. Mmh. Et la suspicion est venue sur son compte, puisqu'on s'est demandé pourquoi lui était sorti. On a dit, mais donc il a donné des noms des plus résistants avant pour pouvoir sortir plus tôt que les autres. Il a été dans un bureau de traduction officiel, juridique, alors c'est-à-dire des textes étrangers, enfin des textes chinois à traduire en français ou en allemand, en anglais. Les Chinois n'étaient pas totalement idiots, ils savaient sélectionner les capacités qu'on pouvait utiliser. Évidemment, le trouver dans ces bureaux-là, vu de l'extérieur, quand je dis vu de l'extérieur, c'est énormément Hong Kong et Taïwan, où les informations circulaient quand même en dépit de la fermeture. Hong Kong est toujours resté plus ou moins ouvert, quand même une porte du sud, où les allées et venues quand même se faisaient. Et vu de l'extérieur, on disait, c'est un traître, c'est pas possible, c'est un traître. Il ne peut pas être à la solde, enfin, avoir la position qu'il a s'il n'a pas fait de compromis.
Alors, cette question de compromission, de traîtrise, nous amène à évoquer ce que nous n'avons pas encore évoqué, les deux églises. Il y a une église officielle et il y a une église clandestine. L'église clandestine, on se doute qu'elle apparaît dans les années 50, au début des années 50. L'église officieuse apparaît dans les années 50 pendant la persécution. L'église officielle, elle, apparaît quand ?
Bah, si vous voulez, il y a une rupture des relations diplomatiques avec le Vatican en 1957. Et se crée cette année-là l'Association patriotique des catholiques chinois.
D'accord.
Donc c'est vraiment la date, je dirais, fondatrice de ce qu'on appelle l'Église patriotique, l'Association patriotique. Donc cette Église était contrôlée et on devait s'enregistrer à cette association-là pour pouvoir exister. Donc de là, bien sûr, vient cette Église officielle. L'Église souterraine, alors, je pense qu'elle... Bon, évidemment, ceux qui ont résisté avant... Avant, il n'y avait pas spécifiquement de dénomination. On résistait ou on adhérait. Ouais. Après 57, il y a une église officielle. Après, il y a tous les gens qui sont en prison. Puis après, il y a la révolution culturelle. Donc là, tout le monde s'y retrouve. Là, la naissance de cette église souterraine, clandestine, invisible, elle vient au moment de la réforme chinoise et de l'ouverture. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde sort de prison. Fin 76.
Dans les 4... ouais,
on est fin 76. Mao meurt. 78, Deng Xiaoping arrive au pouvoir. On est au début des années 80. Là, effectivement, certains prêtres fidèles et évêques vont rejoindre leur diocèse. Mais à l'époque, c'est vraiment minime parce que les églises ne sont pas encore toutes rénovées, ne sont pas récupérées, puisque la révolution culturelle, on a fabriqué des usines dans les églises. Donc petit à petit, il y a les visibles, les officiels qui vont et qui signent effectivement avec l'association patriotique. Certains fidèles vont à la messe, mais c'est encore très minuscule. Et je dirais que là, l'église souterraine existe, puisque ceux qui ont passé leur vie en prison ne vont pas dans l'église officielle, puisqu'elles voient un prêtre officiel, donc communiste, elles voient un évêque en travers auquel ils ne se reconnaissent pas. Donc, ils sont complètement à côté et souterrains. Et tout se perpétue de maison en maison, de village en village, et on continue à apprendre aux enfants en secret le catéchisme et les sacrements. Sont délivrés aussi en secret. C'est époque des années 80.
Vous décrivez vraiment avec beaucoup de détails, et puis vous avez rencontré des clandestins chinois, des évêques clandestins qui sont reconnus par Rome. Vous décrivez le processus, vous décrivez même une anecdote en soi qui est croustillante, c'est que la peur d'être arrêté fait que on nomme un autre évêque et puis on se retrouve avec des endroits où il y a trois évêques et que le troisième qui est nommé, il n'a pas forcément les qualifications requises pour l'être. Alors comment Monseigneur Jin Luxian conçoit, enfin il n'est pas encore Monseigneur, nous sommes au début des années 80, comment conçoit-il son rôle quand le pouvoir communiste commence à se pencher vers lui et voit en lui quelqu'un qui peut être intégré à l'église officielle chinoise?
C'est-à-dire, il a des capacités intellectuelles. Certains hommes politiques à Shanghai, finalement, n'ont pas oublié ce personnage qui, déjà dans les années 50, quand même, Shanghai, il y a beaucoup de monde, mais dans la communauté catholique, finalement, il n'y en a pas 3 millions. Si vous voulez, on se connaît. Le clan catholique, ce sont des lignées, ce sont des groupes. On se connaît entre catholiques. Et Jin Luxian, parlant plusieurs langues, ayant été en Europe, il n'a pas été oublié de certains actuels dignitaires communistes, dont certains parents de ces dignitaires ont été dans des collèges catholiques à l'époque. C'est ça, l'histoire a été quand même, évidemment,
une filiation,
était longue, mais en même temps, il y a des mémoires qui sont encore bien vivantes. Et se disant, mais cet homme-là a la capacité probablement de reconstruire quelque chose, évidemment toujours sous le contrôle du parti, parce que tout est sous le contrôle du parti, mais en même temps, les communistes ont toujours fait appel, pour certains domaines, à des gens en qui ils pouvaient espérer quelque chose pour eux, pour leur image. Et l'image de Shanghai devait quand même être remise à flot, quand même. Ils ont souffert, Shanghai, pour avoir été la prostituée de l'Orient. Dans les années 30, les communistes ont fait payer cher. Mais avec l'ouverture et Deng Xiaoping, Shanghai devait à nouveau briller, mais dans le meilleur sens possible, pour devenir un modèle.
Est-ce à dire que le Parti communiste change sa politique à l'égard du monde catholique?
C'est ce que le Parti affirme. En 82, il y a une nouvelle constitution dans laquelle, évidemment, on prône la liberté religieuse. Alors évidemment, c'est noir sur blanc, et puis après, on fait ce qu'on en veut, c'est souvent ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé pendant des années et des années. Monseigneur Chin me disait, je sentais quand même que quelque chose était en train de se passer. Il venait de passer 20 ans en prison, 9 ans de résidence surveillée, il faisait des traductions officielles. Qui me dit, il avait une sorte d'instinct animal ou un instinct chinois, lui disant, peut-être que là, c'est une chance nouvelle. Il était bien sûr pas évident qu'il eut raison. Mais, en tout cas, il s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Après tout, je ne sais pas où ça va aller. Mais il a fait ce choix.
Alors, a-t-il eu raison, Dorian Malovic? C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de notre émission. À tout de suite.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture, ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée à l'histoire du pape jaune, Monseigneur Jin Luxian, qui nous permet d'aborder le catholicisme en Chine et notamment au XXe siècle. Alors, Monseigneur Jin Luxian vient d'être sacré évêque dans le cadre de l'Église officielle chinoise, et on n'hésite pas à le qualifier d'évêque rouge. Absolument. Était-il vraiment rouge?
Sur le papier, il était rouge. Et ça, incontestablement.
Quand il vient en France, et d'ailleurs c'est la première fois que vous l'avez rencontré, on l'accuse d'être un communiste chinois.
Bien sûr, pour avoir le droit de voyager, de représenter officiellement l'Église catholique chinoise, il ne pouvait être qu'un patriote, fidèle au régime, inscrit au parti, sûr de lui, sinon le régime ne l'aurait jamais fait sortir de Chine pour voyager. Donc les suspicions étaient profondes. Je vous rappelle quand même qu'en 87, lorsqu'il est venu en France et en Europe, le mur de Berlin était toujours très bien solide, l'URSS était toujours là, on était encore en pleine guerre froide. Et en 87, personne ne parlait de l'effondrement du mur et
sauf
de l'Union soviétique. À lui, il combattait. Il faisait ce qu'il fallait. Mais qui pouvait prédire que deux ans après, il serait passé? Personne. Et donc, cet évêque rouge qui vient en France en tant qu'ambassadeur, j'ai dit c'était ambassadeur de Pékin, il vient exprimer la parole officielle du gouvernement chinois pour dire qu'en Chine, il y a la liberté religieuse, tout va très bien, voyez ce que je peux faire. Il commence toujours, bon, ça c'est très chinois pour tout d'ailleurs, mais regardez, il y a tant de nouvelles églises qui ont pu être reconstruites à Shanghai, il y a tant de nouveaux séminaristes, il y a tant de baptêmes, enfin, il fallait indiquer, il fallait. Alors, la difficulté pour lui, c'était de prouver aux deux camps que ce qu'il faisait était bien. Alors, aux yeux des communistes chinois, il devait quand même montrer le plus de bonnes choses possibles, faire, je dirais, la promotion de la liberté religieuse en Chine. Et en même temps, il ne pouvait pas échapper aux yeux des Occidentaux qu'il venait voir, il fallait qu'il leur dise qu'il arrivait quand même, avec ce régime communiste-là que tout le monde exécrait, il fallait quand même qu'il essaye de montrer qu'il arrivait, qu'il réussissait à faire quand même quelque chose. Réouvrir les églises, permettre aux enfants d'être baptisés, faire du catéchisme, ordonner.
Ouvrir des maisons de retraite.
Au début, c'était déjà pouvoir pratiquer librement, rouvrir des églises. Donc, il fallait qu'il dise cela. Mais à l'époque, personne... Mentalement, on était constitué à l'époque d'être dans une méfiance totale vis-à-vis de ce genre de discours. Tous les dissidents soviétiques, polonais qui venaient en Europe et qui racontaient la propagande communiste. Donc lui, il avait beau être chinois, dire « Oh, bah, les Chinois, ça, on peut leur faire confiance. Dans la propagande, ils sont aussi très, très forts. Ils nous ont quand même aussi raconté tellement de choses sur la révolution culturelle qui était formidable. Mmh. Tout le monde s'est fait quand même avoir sur cette histoire-là. Et maintenant, on en payait le prix. » Et lui devait jouer sur les deux tableaux. D'où l'ambiguïté. Je veux dire, cette complexité qui émanait de lui.
Oui. Alors, il y a vraiment deux parties, deux camps, et peu à peu, et même jusqu'à très récemment, nous en discutions hors antenne, les différences s'estompent entre l'église clandestine et l'église officielle. Et il y a même des contacts entre entre les deux. Chose totalement inimaginable au début des années 80.
Oui, tout à fait. Je crois que là, aujourd'hui, on est dans une situation qui s'est beaucoup améliorée. Simplement, le mouvement d'apaisement, le mouvement de liberté religieuse a accompagné l'ouverture et la réforme économique chinoise. C'est incontestable. Plus l'économie chinoise se renforçait, plus l'ouverture se consolidait, plus les libertés individuelles, plus les libertés de s'enrichir, évidemment, augmentaient. Mais parallèlement, tout cela bénéficiait aussi aux religions, et pas seulement aux catholiques d'ailleurs, aux protestants, aux bouddhistes, aux taoïstes, dont les temples étaient rénovés, étaient à nouveau ouverts, et aussi ils récupéraient leurs biens immobiliers d'antan. Donc l'Église a bénéficié de cela. Alors la grande difficulté, c'est qu'au sein de l'Église catholique, il y avait une division profonde entre ceux qui, étant jugés officiels, ceux qui étaient officiels, étaient jugés schismatiques par les souterrains, qui eux se considérés comme les seuls fidèles au pape depuis toujours. Le grand changement de ces dernières années, c'est que la fidélité au pape a été exprimée de plus en plus clairement et de plus en plus ouvertement par l'Église officielle, leurs prêtres, ses prêtres et ses évêques. Et que les prières pour le pape et la fidélité au pape durant les offices étaient clairement dites. Et à ce titre-là, c'était encore un pas en avant. Et aujourd'hui, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, les contentieux entre les souterrains et les officiels sont moindres, puisque les souterrains ne peuvent plus se targuer d'être les seuls fidèles à Rome, puisque même les officiels le sont, et le sont d'autant plus que 90% des évêques officiels chinois aujourd'hui, qui sont 70 évêques officiels, 90% d'entre eux sont reconnus officiellement par le Vatican.
Dont Monseigneur Jinuxian.
Dont Monseigneur Tsin, qui lui a un cheminement très particulier et qui, évidemment, c'est une des révélations du livre, qu'il l'a été, je dirais, très discrètement il y a 2 ans. Mais lui, il avait refusé de l'être auparavant parce qu'il pensait que ça l'aurait empêché de faire des choses très positives pour son diocèse. Il a préféré attendre 2003 pour accepter d'être reconnu en se disant « Là, avec tout ce que j'ai fait, et même si je suis reconnu, en étant reconnu par le Vatican, ça ne me portera pas préjudice pour tout ce que j'ai fait pour le diocèse de Shanghai, notamment la réouverture d'un séminaire national, d'une très grande qualité, où il a invité le premier des professeurs prêtres occidentaux, ce qui était quand même, je dirais, quelque chose d'extraordinaire. Il a ouvert, effectivement, monté des maisons de retraite pour les personnes âgées. Aujourd'hui, il a envoyé des séminaristes et des prêtres chinois à l'étranger, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Belgique.
C'est absolument inconcevable il y a 15 ans.
Inconcevable. Mmh. Mais c'est lui qui a poussé. Il a adapté, quand même, tout Concile Vatican II. Le Concile Vatican II et tous les textes ont été, importés à Shanghai. Par des voies, assez normales. Enfin, on apportait des documents. Il les a adaptés et mis en pratique dans son diocèse. Et à partir de là, les autres diocèses de Chine ont commencé à être informés de ce qu'était Vatican II. Mmh. Moi, je suis arrivé en Chine, on célébrait la messe de Saint-Pie V. Mmh. Et quelque part, c'était un autre temps. Et peut-être pour ça, c'était séduisant pour moi, dans le sens où je repensais à ma grand-mère. Parce que c'était ça, comme ça qu'on célébrait quand on était enfant. Mais lui, il a à nouveau célébré face aux fidèles. Il n'y avait plus de messe en latin, mais en chinois. Et il a réussi, effectivement, à baptiser les enfants dès leur naissance, ce qui était aussi compliqué auparavant. Et donc, il a été quand même le fer de lance d'une renaissance de l'Église, d'un renouvellement de toute une liturgie. Ils ont vécu hors du temps pendant près de 40 ans avec Mao au pouvoir. Et il fallait reconstruire renouer les liens avec le passé pour aller se projeter dans l'avenir. Et lui a été effectivement, à la pointe, étant à Shanghai, un diocèse très important, et pour pouvoir lancer le défi.
Est-ce qu'il a pu s'opposer aux persécutions? Parce que ces persécutions, il y en a eu jusqu'à très récemment. J'ai en face de moi des dépêches de l'AFP d'il y a deux ans, 2004. Décès en prison de l'évêque de Yantai, deux prêtres condamnés aux travaux forcés, arrestation de plus de 100 chrétiens dans la région du Xinjiang. Je dois très mal prononcer. Il existe encore des persécutions?
Oui, il y a encore. J'ai une partie spécifique pour expliquer que, bon an, mal an, il y a encore des prêtres de l'église souterraine, évidemment, qui sont encore arrêtés, des fidèles, ou deux, trois évêques en résidence surveillée. Il y en a un dont on n'a plus de nouvelles depuis 3-4 ans. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Ça existe, évidemment, parce qu'il y a encore, un million au moins de catholiques souterrains qui résistent, effectivement, au système et au régime, et qui sont dans la province du Hebei, c'est assez concentré, bien qu'il y en ait par-ci, par-là, mais ils deviennent aujourd'hui de plus en plus minoritaires par rapport aux 14 millions de catholiques. Et là, Mgr Chin, sur le plan national, il n'a pas beaucoup les moyens d'intervenir dans tous ces diocèses ailleurs que chez lui. Je pense que chez lui aussi, il y a eu des gens qui ont été arrêtés, des gens qui ont été ennuyés. Maintenant, il y a des gens pour lesquels il a dû pouvoir faire des choses, parce qu'il a quand même des relations et un réseau qui l'ont aidé lui, mais dont il s'est servi aussi. Indubitablement, il est très discret là-dessus, mais je pense que c'est aussi une discrétion vraiment volontaire pour ne pas, mettre en péril ceux qu'il peut aider encore aujourd'hui. Mais il va pas me dire. Ceci dit, le connaissant, j'ai d'autres exemples qu'on m'a rapporté où son intervention a permis un certain nombre de choses. Mais en même temps, chaque évêque dans les diocèses n'a pas le même pouvoir. Même en France aujourd'hui, les évêques n'ont pas forcément des grands pouvoirs sur la marche de la société. Mais sur la marche de l'Église, sur Shanghai, il peut avoir une influence très forte. Au niveau national, c'est encore très compartimenté. Puis la Chine est assez grande. Alors même si les communications aujourd'hui sont beaucoup plus faciles qu'avant, mais c'est encore, chacun est en train encore de reconstruire son domaine, son diocèse, d'assurer l'avenir. Lui, il a réussi à assurer la pérennité des séminaristes et puis des prêtres pour prendre la relève. Lui, il a 91 ans, Mgr Chin, aujourd'hui. Il est encore en poste, il tient le coup. Il est malade, mais il se soigne, il voyage et il travaille. Un évêque auxiliaire a été ordonné l'année dernière, au mois de juin. Cet évêque a 42 ans. Vous voyez le clivage, vous voyez la différence d'âge. On voit que c'est le reflet de l'histoire et de la coupure terrible qui a été faite aux catholiques chinois. Mais pour lui, il a réussi à garantir la pérennité.
Eh bien, c'est sur cette pérennité, sur cette vision d'avenir, Dorian Malovic, que nous allons nous quitter. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation de Canal Academy. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « Le pape jaune, Mgr Chin Luxian, soldat de Dieu en Chine communiste », paru aux éditions Perrin Asie. Merci beaucoup.
Merci.
Et à très bientôt.